L'éperon d'argent, extrait Paul Vialard. Chapitre 4. Ensuite, tout commença comme ce doit être toujours, par le commencement. Il n'y a pas de métier, aussi exaltant soit-il, qui se puisse exercer sans la connaissance. Mais l'acquérir n'est rien, malgré les moments rudes, ceux aussi de découragement, lorsque l'on aime ce que l'on fait. La dureté bourrue de Béroulou, la rigueur de Béraudin, l'existence glacée de M. Brixton, auquel il faut joindre les brimades, les vexations, les misères orchestrées par Welcher, que suivait une bande bien à lui et pleine d'admiration pour son imagination, son astuce, sa révolte, firent parfois des heures bien sombres à Flavien. Béraudin n'avait pas menti. Le métier était difficile, harassant et pénible. Dans la vie de ceux qui l'exerçaient, il n'y avait plus de place pour autre chose. La fatigue était trop grande pour qu'on pût jouir des dimanches, des rares fêtes, dont une seule, Noël, était sacrée. En devenant lade, on se liait au maître aussi certainement qu'en entrant dans un ordre, et les vœux que l'on prononçait étaient les engagements d'un contrat. Ce contrat, Brixton l'avait fait signer au gamin le lendemain de son arrivée. Il ne laissait pas place à la fantaisie. L'enfant, autorisé par sa grand-mère, se livrait pieds et poings liés au patron. De maigres appointements lui étaient alloués pour un travail qui le jetait, rompu, le soir sur sa paillasse, et cet argent pouvait à peine lui laisser espérer acheter un complet dans l'année. Heureusement, Talleret avait promis à Flavien de recommencer à louer ses clos à la mère Genet, car Flavien ne pouvait compter, comme il avait espéré le faire, lui envoyer de l'argent. La nourriture, et quelle, lui était assurée. En revanche, il devait faire tout ce qu'on lui ordonnait, et il s'engageait, si plus tard la chance l'amenait jusqu'à la monte, à n'être payé que par un pourcentage minime sur ce qu'il gagnerait. C'était ainsi alors, et un homme comme Brixton, qui n'était pas un mauvais homme, trouvait naturel, puisqu'il était passé par là, que ses gamins travaillassent 14 heures par jour, se levant à l'aube et, dès cette minute, devenant esclaves des chevaux, n'ayant pour toute pitance que l'éternelle portion de haricots agrémentée de quelques filaments de bœuf, ne fussent plus que des valets dont la plus petite faute était sanctionnée par quelques gifles, quelques coups de poing ou même par ces séances de fouet qui punissaient les cas jugés graves. Il faut dire qu'ils étaient difficiles, ces gosses, et parfois, tel Welcher qui en entraînait une poignée à sa suite, inventif, démoniaque et peu sûr. Des bêtes, d'un prix souvent inestimable, dont une négligence, une erreur, un moment d'inattention pouvait briser la si courte carrière, étaient livrées à leurs mains encore incertaines. Seule une discipline rigoureuse pouvait faire régner l'ordre et limiter les risques. Comme l'avait dit Béraudin, le premier jour, le travail commençait avec le réveil, et pour Flavien, ce fut par les tâches les plus ingrates. C'était par un miracle qu'il avait goûté dès son arrivée aux joies de la monte. Sans doute était-ce pour qu'il eût conscience du but qu'il lui fallait atteindre et mesura mieux tout ce qui l'en séparait. Il fit toutes les besognes, les plus mécaniques, les plus ennuyeuses. « Tiens, petit gars, tu vas me trier l'avoine. » Alors, pendant des heures, il passait le grain au tamis avec un grand soin, car Béraudin lui avait dit « Moi, je suis pour l'avoine criblée. Il y en a qui la donnent concassée, je suis contre. J'ai constaté que l'avoine écrasée fait engraisser les bêtes, mais que les chevaux qui la prennent entière, même s'ils la digèrent moins bien, demeurent plus secs et sont plus ardents. L'avoine concassée, c'est bon pour les retraités, ceux qui ne font plus carrière que dans les haras. C'est pas pour chez nous où tout au maximum doit contribuer à la forme, à la qualité. Et pendant des heures, Flavien secouait le crible, passait le grain en avoir les bras raides, ankylosés. Tu es là ? Bon, suis-moi. Flavien voyait tout de suite où le premier garçon l'emmenait. Cela, c'était amusant. Il pénétrait derrière lui dans la sellerie. Là, tout fleurait bon le cuir entretenu, la pâte à mort. Autour d'eux, c'était l'étincellement des aciers polis et repolis, des brides et des harnais luisants comme des miroirs. Attrape ! Bérodin lui lançait les chiffons. Il lui montrait du doigt les boîtes d'onguents, de mixtures. Tu mets juste ce qu'il faut sur l'étoffe, ni trop, ni pas assez. Et tu frottes. Tu frottes jusqu'à ce que ça pénètre, jusqu'à ce que ce soit entré dans le cuir. Et comme s'il lui faisait un grand présent ou un grand honneur, Bérodin disait « Finis tout seul, tu me rapporteras les clés. » Quand Flavien reparaissait dans la cour, l'heure était venue de la distribution. « Pousse le chariot. » Il le poussait, quel que fût son poids. C'était une sorte de voiture haute coupée de cases qui contenait l'essentiel des rations, carottes râpées, avoine bien sûr, et les mâches à la graine de lin. Au début de la tournée, le chariot était lourd, mais il allait s'allégeant au cours de la distribution, et bientôt, l'effort devenant moindre, il ne subsistait plus que les remarques que Bérodin faisait tout haut, si importantes. 40 minutes pour manger la ration. Pas une de plus. Il faut que les chevaux le sachent, sans quoi ils mâchent avec mollesse, ce qui leur nuit. Je ne parle pas de la ration du réveil. 2 litres d'avoine, mais des deux autres, celle de midi, celle de 6 heures. Pour la luzerne, 5 kilos dans la journée, moitié après le pansage qui suit le travail, et la même chose le soir, avec l'avoine. Il s'arrêtait devant un box. Fanfreluche n'a pas d'appétit, regarde sa mangeoire. Pour moi, ça peut venir de ses dents. Peut-être bien aussi de trop de travail. L'avoine brûle les chevaux comme l'excès d'entraînement. Je vais en parler à Béroulou. Il inspectait la mâchoire de la jument, ne paraissait rien découvrir aux dents jaunes, ordonnait « Tu lui prendras sa température. » Il n'aurait pas dit cela à n'importe qui. Flavien le savait. Bérodin lui faisait confiance et il en était fier. Devant un autre box, le premier garçon puisait sensiblement moins d'avoine dans le chariot. Entre ses dents, il disait « Aucun cheval n'est pareil à l'autre, chacun sa nature. » Pour Bandera, il en faut moins, par contre elle boit plus. De l'eau fraîche, naturellement, jamais froide, mais son content. Et de la bonne eau d'ici, de la fontaine, la seule qui lui convienne, à laquelle elle soit habituée. Pour elle, comme pour les autres, quand ils partent aux courses, je leur fais emporter leur ration de boisson. Pour qu'ils l'aiment, qu'elle leur profite, il faut qu'elle ait le goût auquel ils sont accoutumés. Frotter, gratter, nettoyer, porter les litières sales au fumier, brouetter, balayer, frotter encore chaque pavé, chaque centimètre de peau d'animal, et toujours avec la même conscience, le même amour. Recommencer, recommencer encore, toujours, le matin, pour les 2 ans, pour les adultes, puis à leur retour du travail, puis l'après-midi, le soir. Attacher les chevaux aux heures où il faut, les détacher pour la nuit. Penser à tous, à chacun et à tous les instants. Entendre Bérodin crier « Qu'est-ce que j'ai dit pour Tramontane ? Quel est le petit salaud qui lui a donné son eau dans un seau sale ? Et cette litière ? Tu vas me la refaire tout de suite, petite crapule, feignant, sagouin ? T'as déjà vu des chevaux couchés sur une pareille ordure ?» Et la voix râpeuse de Béroulou ? « Vous prenez pour des fils de bourgeois ? Allez-vous vous dépêcher un peu ? Vous voulez sans doute mon pied dans les fesses ? Dans les fesses, hein, dans les fesses !» Et l'organe glacial de Brixton. « Amène-toi ici !» J'étais là au galop quand tu as fait l'imbécile. Tu crois peut-être que je ne t'ai pas vu ? Qu'est-ce que je t'avais dit ?
Mais, monsieur Brixton ?
Il n'y a pas de mais, monsieur Brixton. Il y a que tu m'as désobéi. Je t'avais dit de ne pas pousser.
Il est parti, monsieur Brixton.
Tu n'avais qu'à le retenir. Si tu n'as pas de bras pour ça, tu retourneras à l'écurie. Tu ne m'intéresses pas. Des bras et du cerveau.
C'est trop vous demander ? Et toi, Reynolds ? Tu n'as ni l'un ni l'autre ? Virez, my boy, virez !
Les larmes, les colères, les dépits, la fatigue, tout ce qui est amer, Welcher et sa méchanceté. Les fautes commises par lui et qu'il faisait retomber sur l'innocent, le novice, et pire qu'une punition, les paroles de Bérodin. Je n'aurais pas cru ça de toi, Genet. Et ne rien pouvoir dire. Ne pas pouvoir expliquer sans passer pour un mouchard et sans le payer cher. Et pourtant, il aurait fallu dire à Bérodin, à Béroulou, ce que seul un lad pouvait voir. La façon dont Welcher se conduisait avec les chevaux, surtout avec ceux qui, comme gouverneur, lui échappaient, passés entre les mains d'un gunman. Les fureurs de Welcher et les coups qu'il donnait sur la bouche à la volée, après quoi l'on s'étonnait que l'animal se mît à mordre, les coups de fourche sournois, les coups de semelle dans les flancs. Il les connaissait cependant, les chevaux Welcher, et il les montait bien. Peut-être mieux que personne quand ils le voulaient. Mais eux ne l'aimaient pas. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas avoir confiance en lui. Ils étaient dominés, pas conquis. Et pendant un an, ainsi, sans qu'il en sortît, même le dimanche, sauf une fois avec Gunman pour aller à Chantilly, la cour, avec ses trois murailles percées de portes donnant sur des boxes, ses pavés rudes aux pieds, la buée de son fumier montant vers le ciel les jours d'hiver, la cour où entrait, d'où sortait par la grille soigneusement ouverte puis refermée, les chevaux faits pour l'espace, les aigles, l'envol. Et de l'autre côté du quatrième, la maison de Brixton où habitait Marie. Il n'y avait rien entre Marie et Flavien, même pas d'amitié. Elle ne lui parlait pas plus qu'à un autre. Elle ne lui donnait pas, lorsqu'elle distribuait la soupe, une portion plus forte. Elle ne semblait ni le voir plus qu'un autre, ni le distinguer. Elle ne le regardait pas. Pourtant, et il ne le savait pas, elle entendait parler de lui. Elle en avait entendu parler dès le premier jour. Béroulou n'avait personne pour monter Ténébreuse. Il a mis le nouveau dessus et le gosse s'en est tiré. Quelques mois plus tard,
« Je vais le mettre dehors, il partira. »«
Qui ça, papa ?»«
Ce Genet, le petit bandit, le petit... »«
Qui est Genet, papa ?»«
Tu sais bien, le nouveau. »«
Tu disais qu'il était bien ?»«
Je l'ai cru, un petit salopard comme les autres. »« Béroulou lui a flanqué une volée et il a bien fait. »« Tu sais ce qu'il avait fait ?» Une pointe. Il avait mis une pointe dans la selle de gouverneur pour que le cheval blesse à l'entraînement et flanque Gunman par terre.
Il a avoué ?
Non ? Bien sûr, la petite carne. Mais c'est lui qui a apporté la selle, lui à qui Bérodin avait laissé la clé de la sellerie.
Est-ce qu'avant il ne la donnait pas parfois à Welcher ?
Ça lui arrivait.
Alors, qui avait intérêt ? Réfléchis, papa. Monsieur Brixton avait réfléchi. Flavien n'avait pas avoué, mais il avait à cela ses raisons, des raisons que l'ancien apprenti connaissait bien. Avant de partir rejoindre les chevaux sur les aigles ce matin-là, il avait appelé Flavien. Beauté, la cravache au poing, il l'avait reçu debout dans son bureau, en avait fermé la porte. Tu sais de quoi tu es accusé ?
Oui, monsieur Brixton.
C'est toi le coupable ?
Non, monsieur Brixton.
Alors donne-moi son nom.
Le petit n'avait pas répondu.
C'est bon, une fois de plus on ne saura rien. Seulement ce qui s'est passé est très grave. Nous aurions pu perdre l'un de nos meilleurs chevaux, l'un de ceux sur lesquels je compte le plus. Les propriétaires me font confiance, à moi. Et moi, je dois pouvoir faire confiance à mes employés. Puisque je ne le puis avec toi, tu vas partir.
Flavien avait d'abord levé les yeux. Et M. Brixton y avait vu une telle détresse, une telle supplication, que cet homme, si froid d'apparence, en avait été tout remué. Après tout, Marie devait avoir raison.
Il avait continué, tandis que le petit fixait à nouveau le sol. « Écoute-moi, Genet, et regarde-moi. » Flavien avait, une fois encore, considéré M. Brixton d'un regard droit qui ne pouvait tromper. De grosses larmes roulaient sur ses joues. Il réalisait tout ce qu'il perdait, mais pourtant, il continuait à se taire. « C'est toi qui avais la clé de l'écurie, toi que Béraudin y laisse parfois. Béraudin qui, comme moi, te faisait confiance. Tout est contre toi. Et pourtant, tu m'affirmes que tu n'y es pour rien. Quand tu es rentré ici, j'ai pensé qu'on pouvait faire quelque chose de toi. Et je le pense encore. Mais il me faut ton dévouement entier. Pour le moment, en ne dénonçant pas le responsable, tu ne me sers pas. Et pourtant, tu le connais. » Monsieur Brixton lut clairement, à cet instant, que Flavien savait. Il continua. « Seulement, tu es de la race de ceux qui préfèrent tout perdre que de dénoncer. Tu vas tout perdre, Flavien. »«
Je ne l'ignore pas, monsieur Brixton. »«
Et pour toi, si j'ai bien compris, c'est tout, en effet. »«
Oui, monsieur Brixton. »«
C'est bon, j'aurais fait comme toi. » Et si tu avais parlé, il est probable que tu n'aurais pas non plus fait long feu ici. »
Il y avait eu un silence. « Quand dois-je partir, monsieur Brixton ?»«
Tout de suite, si c'est toi qui as fait la saleté. Si ce n'est pas toi, tu resteras. »«
Mais, monsieur Brixton, » avait fait le petit avec désespoir, « puisque je ne peux pas vous dire... »
« Non, tu ne peux pas, et je ne t'en demande pas tant. Donne-moi seulement ta parole d'honneur que ce n'est pas toi, ta parole d'homme. »«
Oh, monsieur Brixton, mais je vous la donne. » »«
Alors va reprendre ton balai, et continue à te conduire comme cet homme dont je viens d'accepter le serment. »
Le petit l'avait regardé un moment, tout prêt à un élan, mais un homme, il en voulait être un jusqu'au bout. Il avait tourné tout d'une pièce et le cœur plein de joie, il avait regagné la cour. Quelques mois plus tard, M. Brixton avait dit à sa fille
« J'ai donné Friquet à ce nouveau, tu sais, Genet, qui est arrivé en juin.
Il en est à sa troisième journée d'entraînement. Il marche, je ne crois pas que je me sois trompé. »
M. Brixton ne s'était pas trompé, ni sur la valeur morale, ni sur les qualités de métier du gamin. On était fin avril et cela faisait presque une année que le petit était là. Pendant ce temps, il avait travaillé dur à la satisfaction de Béraudin, de Béroulou aussi, sauf en ce qui concernait l'incident de la selle. Et Béroulou lui-même lui avait pardonné, sans doute convaincu par Brixton. Ils avaient été d'accord tout de suite quand il avait été question de mettre le petit à cheval au bout d'une dizaine de mois seulement. Il le fallait. Les recrues de cette qualité étaient peu nombreuses, ou bien douées et cabochardes comme Welcher, ou bien s'en faisant tout de suite accroire, parce qu'elles avaient le derrière sur un cheval et se persuadant pour quelques succès de posséder la science infuse. On est vite grisé par le galop réussi, par une pointe inattendue, alors que, presque toujours, tout vient du cheval lui-même. On se croit très vite, à cet âge, les dons qui font un jockey, alors que c'est plus difficile. Oh, combien ! Mais l'obéissance, la mesure, la compréhension aussi bien de ceux qui savent que de la bête sont choses rares. Brixton, Béroulou, savait que cela existait dans ce corps d'homme-enfant qui avait la volonté, la vigueur d'un adulte, la sensibilité, la fraîcheur toute neuve de l'adolescence. Mai commençait. Les deux ans, nés en 1911, les mâles, déjà ardents et batailleurs au pré, arrivaient. Talry venait de les expédier, tout au moins les premiers, de la Croix Saint-Pierre à Chantilly. Ils avaient débarqué, tout irrité par le voyage, tout cabré par le changement. Il avait fallu des jours de gentillesse, de paroles pour les amadouer, les approcher. Et encore, les choses allaient-elles mieux maintenant que l'éleveur prenait la précaution de les préparer et de leur faire connaître l'homme avant le voyage? Autrefois, on les envoyait tout comme,
et la tâche était doublement délicate. Les autres les rejoindraient en septembre et ils seraient au printemps suivant, semblables à ceux qui étaient arrivés presque en même temps que Flavien, ou à l'automne qui avait suivi. Parmi eux, il y avait Petite Marmite. C'était un drôle de nom pour un cheval, un nom un peu grotesque, un peu ridicule, comme l'était d'ailleurs le Poulain. Un alezan, haut sur pattes, raccourci de façon curieuse. De la croupe au poitrail, il était d'un bon quart moins long que ne l'aurait exigé l'extension de ses rayons, selon la règle habituelle. Lorsqu'il arriva dans le lot, ce fut à qui ne le prendrait pas. On ne demandait pas l'avis des apprentis, mais ils savaient s'arranger, Welcher en particulier. Quand Flavien vit le Yarling, il dit « Je le prendrai bien ». Et on le lui laissa, ce qui simplifiait les choses. Il avait déjà, à l'époque, la charge de Ténébreuse qu'on lui avait redonnée et de Friquet. En plus, il prit le nouveau. Cela lui en faisait trois, et l'on sait ce que cela représente de travail. Friquet avait 2 ans et Flavien le sortait le premier. C'était simplement encore la promenade, puis le trot, puis un canter. Bientôt il irait sur la piste des galops, mais on n'en était pas encore là. Pour Ténébreuse, il n'en était pas de même. Elle travaillait ferme, mais sans grand espoir, car malgré ses qualités, sa franche volonté, elle n'était pas de la race dont on fait les cracks. Pourtant, elle gagnerait ses courses, ses places de troisième, de seconde, peut-être, sérieusement, avant de s'en aller au haras, mettre au monde chaque année quelques poulains, peut-être promis, lui, à la gloire. Mais une Ténébreuse, il faut l'entraîner comme les autres, mieux que les autres, si l'on veut tirer d'elle ce qu'elle peut donner. Et, sous l'œil vigilant de Monsieur Brixton, de Béroulou, Flavien s'y employait. Avec application. Tout cela encore était de la besogne, quoiqu'elle eût dépassé celle de l'écurie. Un jour viendrait, il le voulait de toute son ardeur et il savait qu'il y parviendrait, où on lui confierait quelques gouverneurs comme à Gunman, quelques sardanapales tels celui de l'écurie voisine, qu'il voyait le matin abattre son kilomètre sur les aigles, dominant tout son lot. Celui-là, c'était un cheval, un athlète coupé à la serpe, une masse de muscles supportée par des jambes frêles, un cheval laid, massif et disproportionné, mais qui, dès qu'il était en action, se transformant, galopant farouchement, crinière au vent, et avec une force, une puissance irrésistible. Et en le voyant, Flavien, intensément, pensez à ce Yarling, au nom absurde que tout à l'heure il irait voir à l'écurie. Ténébreuse rentrée, bouchonnée, pensée avec un soin scrupuleux, il se dirigeait vers le box du nouveau. D'abord, par le haut de porte ouvert, il l'observait un long moment. Non, il n'était pas beau, mais Sardanapale l'était-il ? La robe alezan clair était luisante. Il prenait pour celui-ci autant de mal que pour les autres, plus peut-être. Ce n'était pas encore un cheval fait, cela se décelait tout de suite. Il avait ce côté dégingandé, jeune chien aux membres trop longs, des bêtes qui n'ont pas atteint leur maturité. Les lades qui le regardaient se moquaient de lui. Pourtant, lorsqu'on l'observait de près, on lui découvrait un côté léger, enlevé. Dans l'œil, une ardeur véritable. Mais pour cela, il fallait savoir discerner. D'instinct, Flavien le savait. Il entrait dans le box. Déjà, le cheval se laissait approcher, toucher. Il n'était plus, comme au premier temps, tout de suite dressé sur la défensive. Et comme il l'avait fait autrefois pour l'enturlu, tout en lui caressant l'encolure, les flancs, Flavien doucement lui parlait. Plusieurs fois dans la journée, il avait avec le cheval de ses colloques. Bientôt, ce furent des dialogues, car Flavien en était sûr, le cheval lui répondait. C'était en grattant du sabot sur le pavé, par un hennissement léger qui ne franchissait pas les murs de sa cellule, par un coup d'œil de son gros œil rouge étonné. Et, Comme pour le remercier, Flavien posait sa tête le long du col de l'animal, se haussant sur la pointe des pieds pour y parvenir. Et il y demeurait là un long moment, sentant contre son oreille la chaleur du sang de la bête en comptant les battements. Un jour, Béroulou le découvrit. Il n'aimait pas beaucoup ses attendrissements. Les chevaux, quoi qu'il sût, tous deux, il ne les avait jamais traités ainsi. Cela l'irrita un peu. Il aurait bien changé petite marmite de l'âde, mais cela n'aurait pas facilité les choses, d'autant plus que le moment était venu de le commencer. Il ne dit rien. Seulement, de sa voix rude, il décréta
« À 2 heures, on mettra ton carcan à la longe. Rien qu'à le voir, on se rend compte que c'est un nerveux. »
ajouta-t-il, car, surpris par la voix du Tarbet, le cheval avait fait un écart brusque. Une drôle de carne, oui. Tout juste bonne sans doute à mettre dans cette petite marmite dont il porte le nom. Il nous faudra peut-être bien un mois pour en venir à bout.
Flavien n'avait rien dit. Il était allé trouver Béraudin.
C'est pour la clé de la sellerie, monsieur Béraudin. Il y a monsieur Béroulou qui veut que je mette mon canard à la longe après la soupe. Je voudrais prendre les accessoires.
Il avait eu la clé. Alors, méthodiquement, il avait préparé ce qu'il lui fallait, comme il l'avait déjà fait pour d'autres chevaux qui, cela, ne lui étaient pas confiés du temps où il était encore à la cour. Une sorte de demi-cercle de fer, le cafson qu'on place sur le chanfrein, un mors de caoutchouc, puis d'acier, au cas où il pourrait le lui mettre, un surfait, enfin, une selle légère. Il avait mis tout cela dans un coin, prêt à être ramassé le moment venu, puis, soigneusement, il avait refermé la porte. À table.
« T'as pas faim, Genet ?»«
Non. »«
Tu me donnes ta part, si tu veux. »« Et ta confiture, va tout de même la chercher. »«
Bien sûr, je te la passerai, Gunman. »«
T'es pas malade ?»«
Mais non !»
Devant le comptoir de bois où se pressaient les gamins au moment de le servir sur son assiette retournée, Marie l'avait regardé. C'était la première fois. Il avait semblé à Flavien que la jeune fille l'avait deviné. Très vite, il avait dit « merci » et était retourné à son banc. Il n'avait pas mangé parce qu'il avait son idée au sujet du cheval nouveau. Il se souvenait de ce que Talray lui avait fait faire dans l'écurie à la Croix-Saint-Pierre. L'Enturlu était un fameux cheval et pourtant, encore sans expérience, il l'avait monté. Avec Petite Marmite, ah, ce nom stupide, il ferait pareil. Béroulou le trouva dans le box. Le cheval avait déjà le cafson et la longe.
« Suis-moi !»
Derrière le headlad, il traversait la cour. Dans le bois d'en face, dans une clairière, on avait aménagé un rond. C'était une petite piste circulaire, dont le rayon était de la longueur de la longe. On y entrait par une chicane percée dans les barrières qui l'entouraient. Quand le headlad fut au centre, il se retourna. Petite Marmite était restée sur la piste sablée. Il tirait, arc-bouté sur ses pattes, pareil à un âne. Il paraissait inquiet, les oreilles dressées, le cou tendu.
« Pourquoi n'es-tu pas resté près de lui? Qu'est-ce que tu apportes là ?»
Ce que Flavien déposait au pied du patron, c'était le surfait, la petite selle. C'était pour les y placer qu'il avait laissé le cheval en arrière.
« Tu es fou! Tu n'as pas la prétention !»«
C'est en cas, monsieur Béroulou. »
« En cas de quoi? Contente-toi pour aujourd'hui de le faire tourner ton carcan, et si t'y parviens, ce sera déjà beau !»
Entre ses dents, il grommelait.
« La prétention de ces gamins !»
Flavien se taisait. Il raccourcissait la longe, se rapprochait du cheval. Il commença par le caresser, par le calmer.
« Allons, fais-le tourner !»
Alors, doucement, rallongeant peu à peu la lanière de cuir, Flavien mit le cheval au pas sur le cercle.
« Viens au centre !»
Flavien ne paraissait pas entendre. C'était lentement qu'il donnait de la distance, de la main. Bientôt, il fut assez loin du cheval, tout près de Béroulou.
« Au trot !»
Flavien claqua de la langue et Petite Marmite partit. Il fit 10 mètres, broncha soudain, se cabra. « Tiens-le !» Un coup sur le chanfrein. Oh, pas très rude, juste ce qu'il fallait pour que la bête sentît la main. « Allons, petite marmite, allons !»« C'est avec tes mains qu'il faut y causer !» Avec la voix aussi, Flavien le savait bien. « Oh, mon garçon, oh, petite marmite, oh, allons !» Le cheval reprenait le trot, un écart, deux encore. À chaque fois la main et la voix surtout. Une révolte encore, un coup de cafesson, et puis des caresses, doucement, pour donner confiance, pour calmer le petit cheval qui, déjà, tremble moins, frissonne moins. Encore, mon garçon. Une fois de plus, la longe longue, le trot, le galop. Plus de ruades, plus de saccades. Alors, j'essaye, monsieur Béroulou.
Tu essayes quoi ?
Du doigt, Flavien montre le surfait, la selle.
Tu peux toujours, tu vas voir les bonds qu'il va faire.
Flavien raccourcit. Il tient le surfait sous son bras, la selle. Il caresse, caresse encore le chanfrein, l'encolure de sa main libre. Puis, avec une douceur infinie, il pose le surfait, la petite selle, les soutenant sans les laisser d'abord peser sur le dos. Un écart, un coup de rein. « Oh, là !» Puis la parole. « Tu vois, ce n'est rien, mon mignon, mon garçon. Rien, rien du tout. À présent, je vais serrer la sangle. Tu ne sentiras rien, tu ne peux rien sentir. Parce que tu sais que c'est moi, mon ami. Moi, moi, moi. » Il attrape la sangle. Il serre et les défenses recommencent. Une séance, une vraie. Le cheval un instant tire au renard, s'écarte. Facilement, il retomberait sur le dos, se briserait les reins.
Hé !
Clame Béroulou. Tiens-le, bon Dieu, tiens-le bien ! Flavien voudrait faire taire le headlad, mais il ne l'ose pas. Il ignore Béroulou. Il veut l'ignorer malgré ses cris. C'est une affaire entre ce cheval et lui. Personne n'a à y intervenir. Lentement, il le calme, puis lentement aussi, il rallonge la distance. Et voici que le cheval reprend son trot en rond, bien en rond. Puis, un petit galop, et qu'il tourne, scellé, un moment, il tourne. Ensuite, lorsqu'il s'arrête, de lui-même, Flavien revient près de lui. Au mort cette fois, c'est facile. Au passage, gentiment, le garçon essuie la bouche, flatte la tête. L'allonger sur le sol et Béroulou regarde. Il ne dit plus rien. Flavien se tient à gauche du yearling. Il ne cesse de le caresser. Soudain, il saisit une poignée de la crinière de sa main gauche et place sa droite sur le pommeau. Lentement, il se rétablit, sans secousse. Et le voici couché sur le garrot. Il demeure là un moment, comme il a fait autrefois dans l'écurie de Talleret. Petite marmite d'abord a poussé un hennissement plaintif. On voit ses muscles se contracter sous la peur. Alors, Flavien parle, le colloque, le dialogue habituel reprennent. « Tu n'as rien à craindre, mon garçon. C'est moi, mon bello. C'est moi, mon ami. Cesse de te crisper. Cesse de te raidir. Je suis là. Je ne te veux pas de mal. Tu le sais bien. » Laisse-toi faire, laisse-toi. Hop, la jambe par-dessus le dos, en ayant bien soin de ne pas toucher la croupe au passage. Et en avant, au galop sur la piste ronde. 2-3 tentatives du cheval instinctives, car il n'est pas méchant, pour se débarrasser de ce poids, de cette gêne inhabituelle. Puis le galop, franc, net et sans dérobade. Puis la main plus ferme à la bride, ralentir, doucement, s'arrêter. Flavien lève la tête. Maintenant, il ose regarder du côté de Béroulou. Sans doute, depuis un moment, a-t-il cessé de savoir même que le headlad existait. Il est toujours là, Béroulou, mais il n'est plus seul. À côté de lui, il y a une forme féminine, une jeune fille en robe claire. La voix rude ordonne
« Ça va bien, compliments !» Descends à présent.
Il met pied à terre. Il demeure à côté du cheval, un peu couvert d'écume, mais calme. Approche. Un pli barre le front de Béroulou. Va-t-il gronder, punir ? Il faut toujours s'attendre à l'injustice. Non, il dit, ça suffit pour aujourd'hui. Je vais le rentrer ton cheval parce que Mademoiselle Marie veut te parler. À moi ? Demande Flavien. Il tremble, tout comme le cheval tremblait tout à l'heure. Oui, à toi, reprend Béroulou, toujours bourru. À toi, tu as bien compris, elle a quelque chose à te dire. Déjà, il tire le cheval, l'entraîne vers la sortie du rond, vers la route, vers la cour. Flavien reste là, avec Marie. Le soleil de mai les éclaire tous deux, face à face. Il est entre eux et pourtant, il les réunit dans une même lumière. Ils sont tous seuls. Elle s'appuie à la barrière. Lui ne comprend rien, sinon qu'il a maté le cheval, qu'il se trouve à présent avec Marie et que pour la première fois, elle va lui parler. « Voilà, » dit-elle, le front baissé. Puis elle s'arrête. Ce qu'elle a à dire doit être difficile, car il lui faut reprendre. « Papa a reçu une lettre de votre pays. » Il voulait vous faire venir pour vous dire, j'ai pensé qu'il faudrait mieux que ce soit moi. Ce sont des choses que les hommes disent mal. Ils sont là, loin l'un de l'autre, et c'est pourtant comme s'ils se touchaient. Elle a une voix musicale à laquelle il est sensible, comme sans doute l'était tout à l'heure à la sienne, ce cheval qui l'a calmé, qui l'a tenu ensuite dans sa main, entre ses genoux. Il se tait. Ce qu'elle va dire lui importe peu, elle parle. Une nouvelle, une mauvaise nouvelle. Pour lui, il ne songe qu'à une seule. Son départ d'ici, pour une raison qu'il ignore encore, son abandon d'un métier qu'il aime, son éloignement de la côte, des chevaux, de Bérodin, de Gunman, de Béroulou, de Monsieur Brixton, de Marie. Oui, une mauvaise nouvelle, continue-t-elle. Votre grand-mère, Flavien, elle a dit Flavien. Elle qui ne l'a jamais regardé jusqu'à aujourd'hui. Elle sait son prénom, elle ne l'a pas appelé Genet. Flavien, reprend-elle, votre grand-mère est morte. Morte ? La vieille ? La pauvre vieille qu'il n'a même pas revue ? Il l'aimait, elle était tout ce qu'il avait au monde. Tout ? Est-ce bien sûr ? Le chagrin tout de même, et les larmes ? Pourtant, il ne faudrait pas pleurer devant Marie. Il ne devrait pas, lui, un homme. Il pleure, pourtant. Mais pas des larmes bêtes, veules. De vraies larmes qu'elle comprend. Qu'elle comprend si bien qu'elle lui tend la main. Il se laisse faire. Ils sortent du rond enchantés. Ce n'est pas vers la route qu'elle l'entraîne, non. Vers le bois. Il y a une allée là et ils s'y engagent tous les deux. Ils ne disent rien. Elle le tient toujours par la main et ils avancent dans le bois de mai. Ils avancent sans une parole, dans ce premier chagrin qui, par un miracle inouï, est aussi un peu de bonheur.